Guerre d'un Coton de l'Est présenté par Alain Young.
Bonsoir, la CENI suspend les opérations de compilation des résultats des élections législatives en cours de traitement dans les centres locaux. D'après le communiqué de la CENI, cette décision fait suite aux nombreuses réclamations de certains partis et regroupements politiques ainsi que des candidats indépendants. Comment analyser cette décision de la CENI? Nous recevons comme invité Christophe Lutundula, député national de la majorité présidentielle et président du mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD. Honorable Lutundula, bonsoir.
Bonsoir.
Martin Mukonkole, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates et républicains à l'Assemblée nationale. Honorable Mukonkole, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Félicien Kabamba, politologue et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions comme d'habitude. Louis Dikona de Kinshasa, je salue le courage de la CENI de reculer devant un obstacle afin d'éviter le pire. Je pense que les acteurs politiques congolais doivent saisir l'opportunité de faire confiance à la CENI au lieu de crier à la fraude. En tout ceci, c'est la victoire de la démocratie. J'appelle la classe politique congolaise au sérieux et la CENI à la sérénité. Aaron Roy, je ne comprends pas comment la CENI peut stopper la compilation des résultats. Quel sera le sort de ces candidats malheureux dont la compilation s'est faite sans la participation de leurs témoins et qui ont été victimes des manipulations? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En vue de garantir la transparence et la crédibilité des élections législatives, la CENI suspend les opérations de compilation des résultats des élections législatives en cours de traitement dans les centres locaux. D'après le communiqué de la CENI publié ce mercredi, cette décision fait suite aux nombreuses réclamations de certains partis et regroupements politiques ainsi que des candidats indépendants. On écoute le professeur Jacques Joly, vice-président de la CENI, donner plus de précisions sur cette décision. Il a été joint par Michel Kifindangoy.
Nous sommes partis des interpellations des observateurs internationaux et nationaux autour des résultats de la présidentielle. Ensuite, de multiples appels et autres récriminations sur la manière dont se déroule la compilation dans nos différents centres. Ainsi, mettre fin à toutes les interprétations et afin d'avoir des résultats susceptibles d'apaiser les uns les autres, il était important que nous puissions sursoir vraiment à ces opérations et essayer de voir comment, avec l'assistance technique internationale qui nous a été offerte, comment améliorer les mécanismes de compilation.
Puisque vous parlez de l'assistance technique internationale, nous sommes un peu curieux de savoir qui sont-elles, ces équipes, et quel sera leur travail en réalité, et quelle sera leur marge de manœuvre.
Le concept opérationnel, c'est que autour du bureau de la CENI et de l'assistance technique internationale qui nous a été forte, notamment par les États-Unis et la Grande-Bretagne, et sous la coordination et l'appui de la MONUSCO, essayer de faire la validation du travail déjà fait, de vérifier là où il y a des contestations et d'appuyer les équipes qui fonctionnent.
Honorable Christophe Lutundula, comment vous analysez cette décision de la CENI?
D'abord, je salue le courage et la sagesse du pasteur Mudunda et de toute son équipe, du bureau de la CENI en fait, pour avoir pris une décision aussi importante que celle-là. Il fallait en effet que la CENI ne donne pas l'impression d'être sourde aux interpellations, comme le président Joly lui-même vient de le dire, aux interpellations, j'allais dire aux incriminations, dont tel est l'objet de la part aussi bien des observateurs nationaux qu'internationaux. La CENI ne pouvait pas et n'a pas le droit d'être si vous voulez, indifférente à tout cela, de fermer les yeux devant certaines failles qu'elle-même reconnaît, devant certains problèmes d'ordre matériel, au sens plein du terme, et je crois que ce n'est qu'à son honneur, coup de chapeau à toute l'équipe de la SUNY.
Alors, cette intervention honorable n'est-elle pas tardive?
Mieux vaut tard que jamais. Je crois que l'importance des élections, à quelque niveau que ce soit, l'importance nationale, je veux dire, les enjeux en présence et même le défi qu'ils nous sont lancés, nous comme peuple congolais, vis-à-vis de l'organisation des élections, tout cela méritait qu'à un moment donné, qu'on ne puisse pas continuer. Vous savez, on dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est criminel. Et donc, il n'y a pas à dire que c'est tard ou que ce n'est pas tard. Je voudrais peut-être aussi donner un élément institutionnel. Chez nous, on a l'habitude de penser que le pouvoir, c'est le président de la République. Hélas, ce n'est pas aussi vrai que cela. J'ai l'impression que les Congolais ne veulent pas sortir de la culture présidentialiste, avec un président de la République hypertrophié. Le pouvoir, dans la Constitution du 28 février 2006, c'est bien sûr le président de la République, mais c'est aussi le Parlement, avec comme poumon important vis-à-vis du gouvernement, l'Assemblée nationale. Je veux dire que les législatives ne sont pas moins importantes que la présidentielle, voyez-vous. Et donc, il y a une branche très importante du gouvernement, au sens large du terme, de la gestion, de la gouvernance de notre pays, et qui doit être mise en place, à l'occurrence, l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de dire que c'est tard, ou que ceci, ou que cela, à mon sens.
Deux auditeurs pour vous, honorable Christophe Lutundula, Serge Moulimi-Loi de Lubumbashi-Katanga. Je pense que l'initiative doit être encouragée, mais seulement cela vient en retard, parce qu'il fallait prendre la même décision pour la présidentielle. Pascal Béat de Lubumbashi, encore au Katanga, après avoir rejeté les conclusions des observateurs internationaux sur les présidentielles, la CENI sans vergogne fait encore appel à une équipe de supervision et d'appui technique internationale pour les législatives. C'est à croire finalement que la CENI ne maîtrise pas les lacets du scrutin qu'elle prétend avoir bien organisé, honorable.
Attendez là, à ce qui concerne le caractère tardif, non, je viens de donner la réponse, mais je voudrais peut-être nuancer un certain nombre de choses. Le compatriote dit « après avoir rejeté ». Et je n'ai pas cru entendre que la CENI a rejeté. La CENI a justifié certaines failles que l'on a observées dans le processus, mais quelque part aussi...
Avec virulence.
Oui, évidemment, elle doit défendre le travail qu'elle a fait, on ne peut pas faire grief à la CENI de défendre son travail. Mais quelque part aussi, la CENI a reconnu qu'effectivement, il y avait des pannes dans le processus, et il n'y a pas reconnaissance plus éloquente que la décision de suspendre le processus, la compilation à l'occurrence, et de faire appel à l'assistance internationale pour qu'ensemble, cette fois-ci, nous puissions mettre la main à la pâte et voir comment améliorer les choses. Après tout, c'est une œuvre humaine, elle est perfectible à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Donc moi, personnellement, je ne comprends pas ces types de critiques. Je dis ce qu'ils le font en nos droits, mais je crois que nous devons savoir ce que nous voulons. Est-ce que on peut faire grief, honnêtement parlant, à la CENI, à ses dirigeants qui ont dit oui, effectivement, nous sommes interpellés, ajustons bien le tir pour aller de l'avant, donner plus de crédibilité aux élections, aux processus électoraux. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit les faire grief. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, à mon sens, c'est de continuer à aider la CENI par des critiques objectives, fondées et par des propositions. C'est très important d'amélioration du processus.
Alors, honorable, avant de donner la parole à l'honorable Moukonkolé, la première mesure dans le communiqué de presse de la CENIDI sont suspendues en attendant l'arrivée des équipes de supervision et d'appui technique international des opérations de compilation des résultats dans tous les centres locaux de compilation des résultats en cours de traitement. Pourquoi, à ce stade, faire encore appel à cette équipe de supervision d'appui technique international? Certains observateurs pensent que c'est une façon de rechercher la certification des résultats par la communauté internationale.
Oui, je crains fort que nous puissions tourner en rond. Je reviens à ce que je dis. Nous ne pouvons pas déplorer de lacunes, j'allais dire pire, stigmatiser les lacunes dans le processus et refuser, se plaindre, reprocher que l'on puisse chercher des solutions.
Entre autres, la certification.
Non,
par la communauté internationale.
Il ne s'agit pas d'un problème de certification. Ça, en fait. Et si vous dites certification, alors faisons du recul jusqu'il y a 5-6 ans. Et il faut lire les termes de référence. Par exemple, la résolution qui a mis en place la MONUSCO. La dernière résolution. Il y a également la sécurisation du processus, l'assistance technique. C'est ça l'assistance technique. Et la MONUSCO, qui est ici, si vous voulez, le représentant, où le symbole même de la présence de la communauté internationale dans ce processus a toujours dit qu'elle n'est pas là, qu'elle n'a pas eu mandat de certifier. C'est toujours dans le cadre de l'assistance technique. Vous voyez? Donc moi, je ne crois pas, il ne faut pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas.
Honorable Martin Moukonkolé, quelle est votre analyse?
Moi, je suis d'abord étonné de constater que le président honorable Lutundula est en train de jouer à la défense de la CENI. Et j'avais pensé qu'il parlerait comme candidat député parce qu'il est déjà élu. Il devrait être sincère, reconnaître qu'il y a eu des failles dans l'organisation de ces élections. Je suis de l'avis de ceux qui pensent que la CENI est intervenue en retard. En retard pourquoi? Parce que, qu'il s'agisse des élections présidentielles ou législatives, on n'a pas découplé les deux types d'élections. On a fait les élections les mêmes jours, la même date et aux mêmes heures. Et si c'est maintenant qu'on vient de constater qu'il y a eu des anomalies, il faut que nous soyons conséquents tous que ces anomalies ont tacheté tous les processus électoraux du présidentiel jusqu'à la députation nationale. Il y en a fait là où j'ai été d'accord avec l'honorable Tundula quand il a parlé que le pouvoir n'est pas seulement au niveau de la présidence. Et le pouvoir est aussi au niveau du Parlement. Parce que ce sont tous des élus qui viennent réellement de la volonté populaire. Mais moi, j'ai compris que la CENI, elle a quand même joué un peu au malin en acceptant maintenant prendre cette décision. Et une décision qui, pour moi, nous ramène à ce que nous avions demandé bien avant, que c'était nécessaire qu'on puisse certifier les résultats des élections. Mais on a accepté qu'on puisse certifier les résultats qu'au niveau des élections législatives. Quand bien même la députation nationale, les élections présidentielles s'est déjà passées. C'est pourquoi moi j'estime que nous devons, pour cette fois-ci, être conséquents. Conséquents pourquoi? Parce que les dégâts commis au niveau de ces élections, il est tellement néfaste à tous les niveaux. Nous pouvons prendre le nombre des bureaux de vote. Par circonscription électorale, je ne connais pas une circonscription électorale qui n'a pas connu des problèmes, qui n'a pas connu des contestations. Même là où la majorité a été celle, et je crois que c'est une très forte interpellation au niveau de la CENI. C'est vrai, elle vient de se ressaisir un peu en retard, mais je continue à souhaiter que sa bonne foi se manifeste pour cette fois-ci en acceptant réellement la volonté de notre peuple qui s'est exprimé lors de ces élections. Je sais qu'il y a eu déjà des falsifications de certains PV. Je sais que la même CENI, d'une manière ou d'une autre, a tenté de donner une certaine leçon pédagogique à certains membres qui devraient faire partie des bureaux de vote, mais les réalités que ces membres-là ont pu faire vivre aux électeurs, aux témoins, aux observateurs, nous connaissons tous qu'il y a eu un refus total de remise des PV dans des circonscriptions. Les présidents des bureaux de vote ne remettaient pas des PV aux témoins ni aux observateurs, surtout aux témoins. Et même la signature, c'était devenu comme un problème. Il y a beaucoup de PV qui n'ont jamais été signés. Heureusement, que ça fait partie de toutes les réclamations qui sont faites, pas seulement au niveau de la circonscription, heureusement, pas peut-être au niveau de la circonscription de l'honorable Tundula, parce que à Katako, il n'y a pas eu tellement trop de problèmes. Mais je vous dis que c'est sur toute l'étendue de la République. Vous passez dans les bandes d'Undo, à Kenge, il y a eu des protestations. Je ne vais pas parler de Manono, je ne vais pas parler de Kabinda de chez moi, je ne vais pas parler de Lubao, je ne vais pas parler de la ville de Mbujimayi, là où c'est à manger, à boire. Et je ne vais pas parler de Chilenge. Donc, il y a eu des contestations partout parce que on est même tenté aujourd'hui de regretter l'effet Malumalu.
Alors, honorable Martin Mkonkole, vous appuyez la certification des élections par la communauté internationale, notamment la MONUSCO, mais la MONUSCO a toujours réaffirmé que ça ne faisait pas partie de son mandat et l'honorable Lutundula l'a rappelé. À quoi s'en tenir finalement?
Mais nous, les concernés par ces élections, à travers la CENI, nous disons que nous avons besoin de cette expertise pour nous faciliter la tâche. Vous n'avez qu'à comprendre les premiers points du communiqué de la CENI. C'est clair, on demande cet appui technique pour faire quoi? C'est pour nous assister afin d'éclairer là où nous étions incapables de pouvoir présenter des choses. Nous reconnaissons et nous disons, c'est comme ça que je donne raison à l'honorable Tundula qui dit que ce n'est pas mal d'améliorer. Nous sommes en train de chercher à améliorer parce qu'on a reconnu que c'est nécessaire, qu'avec cet appui de la communauté internationale, ça pourra nous faciliter la tâche pour que nous puissions bien faire.
Alors, plusieurs candidats ont décrié l'organisation de ces élections des législatives. Pensez-vous qu'avec ces propositions de la CENI, ça pourrait redresser, recadrer les choses?
C'est aussi une dimension qui sera très utile pour qu'on puisse recadrer les choses, parce que ces candidats qui ont pu réclamer, il y a beaucoup de candidats qui se sont fondés sur la volonté des électeurs qui sont les véritables souverains primaires. Et là, c'est un aspect que nous devons prendre en compte. Mais je ne vais pas entrer dans certaines réclamations au niveau de certaines tendances politiques. Mais moi, je me dis, notre peuple a accepté de se prendre en charge, a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être faites. Et je ne vais pas entrer dans les petits détails qui ont pu déstabiliser la population qui était toute engagée à aller aux élections. Et vous avez vu qu'il y a eu des listes d'abord qui étaient très mal présentées. Vous étiez enrôlé dans un centre. Et quand vous arrivez, vous trouvez que votre nom n'est pas sur la liste. On sait bien qu'on ne couvre pas toute l'étendue de la République par les moyens de communication fiables, mais la CENI reste faire un communiqué l'après-midi pour dire que tout celui qui s'était fait enrôler, même si son nom n'est pas dans ses centres, il peut aller voter. Et cette information est bloquée au niveau des membres du bureau de vote, ça ne circule pas. Donc, il y a eu une démotivation totale. C'est ainsi que vous constatez qu'il y a eu un taux très faible de participation, malgré la bonne volonté de la population de pouvoir aller aux élections. Donc nous estimons que c'est déjà une façon aussi de laisser le peuple se prendre en charge afin de pouvoir exprimer sa bonne foi, de pouvoir élire les véritables dirigeants, ses véritables représentants.
Professeur Félicien Kabamba, le communiqué de la CENI insiste que c'est en vue de garantir la transparence et la crédibilité de cette élection que ce bureau a pris la décision de suspendre les opérations de compilation des résultats. Quelle est votre analyse, professeur?
Il faut reconnaître que la mise en place de la CENI répondait à l'idée selon laquelle la gestion des élections devait relever d'un organe composé d'agents honnêtes et indépendants à la fois de l'administration de l'État et des partis politiques. Cependant, cette idée, qui est pourtant facile dans sa conception, rencontre aujourd'hui de nombreux biais opérationnels. Quand on regarde la manière dont la CENI a fonctionné, on peut très vite arriver à conclure qu'en fait la CENI est aujourd'hui au cœur de ce sombre tableau électoral. Dès le départ, et cela a été démontré dans le rapport de International Crisis Group, la CENI avait choisi de faire cavalier seul. Le refus de cette dernière d'échanger avec l'opposition durant les enrôlements et d'accorder une certaine attention nécessaire aux doléances de la société civile et des partis politiques, était déjà au départ symptomatique d'une crise beaucoup plus grande. Et on se rend compte aujourd'hui que cette absence de côté des critiques occasionne un capital de suspicion qui se traduit aujourd'hui par une méfiance généralisée vis-à-vis de cette institution. Mais devant le nombre très croissant de contestations, une généralisation de... Là, on est pratiquement dans une situation de chaos. La CENI n'a pas aujourd'hui beaucoup d'arguments à avancer. Et, à mon avis, trois possibilités s'offraient à elle. La première, procéder au recomptage de votes, et encore que là, la difficulté est celle de recompter le contenu de vraies fausses urnes. La deuxième, c'est valider l'usurpation des sièges, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de sièges sont presque usurpés, étant donné les nombreuses contestations et parfois de preuves qui sont apportées par les personnes qui contestent. Et la troisième, c'était tout simplement, et je crois que c'est celle qu'ils ont optée, suspendre le processus et chercher une procédure de validation de résultats. Et donc, il me semble bien que cette troisième solution qui a été adoptée par la CENI est due à arrêter ce mouvement de contestation généralisée qui, à mon avis, devait déboucher sur un chaos beaucoup plus fort, beaucoup plus inattendu, aux effets pervers. Moi, je ne crois pas qu'une autre solution était possible. Il fallait d'abord arrêter, voir le parcours du processus et essayer de voir comment recadrer les choses. Bien entendu, on aura déjà pendant ces temps encaissé tout ce qui s'est passé au niveau présidentiel.
Professeur, il y a le chef des travaux Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka à l'Équateur qui dit que la CENI exprime un sentiment d'impuissance face aux problèmes occasionnés par les fraudes et autres irrégularités constatées. Aujourd'hui, il est difficile de garantir la transparence étant donné que les résultats de certains bureaux de vote sont introuvables. Les résultats de ces élections poseront toujours des problèmes et les institutions issues de celles-ci auront du mal à affirmer leur légitimité, professeur.
C'est tout à fait exact. Il n'y a aucune légitimité qui peut sortir véritablement d'un processus qui est autant décrié. En réalité, à travers le jeu électoral, il y a un transfert de pouvoir entre le corps électoral et les élus. Alors, je me demande comment, à travers un jeu faussé au départ, un jeu très contesté, comment il peut s'opérer véritablement un transfert entre l'électeur et l'élu. Ça pose quand même un problème sur le plan de la sociologie politique, un problème de légitimité.
En parlant de légitimité, professeur, il y a cette auditrice Yvette Ndaya qui nous écrit de Kabongo, Katanga. Elle dit « C'est une honte pour un pays qui se dit démocratique et qui soit incapable de sortir honnêtement 500 députés. Les données sont falsifiées. Ceci n'encourage pas les Congolais à aller massivement au vote des députés provinciaux. Je pense qu'elle voudrait dire des élections locales et suivantes. Le pouvoir en place peut simplement les nommer au lieu de perdre des millions de dollars pour ces élections dont le verdict est connu avant le scrutin. Professeur.
Bon, il faut dire que les élections est un moment important. Nous rencontrons des problèmes aujourd'hui. Cela est certainement dû à la mauvaise préparation par la CENI du processus. Mais nous ne pouvons pas faire marche arrière, retourner au système de nomination. Ce qui est plus dangereux plutôt dans les pratiques actuelles, c'est que nous avons comme l'impression qu'avec le bureau actuel de la CENI, il se crée progressivement une culture de la tricherie électorale. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer le plus vite possible.
Professeur, la présence de ce comité d'appui technique international peut-il rassurer finalement les différents acteurs politiques?
Oui, je crois que cela avait été réclamé par certains acteurs. Le fait qu'aujourd'hui la CENI accepte cette proposition, je crois que cette acceptation est destinée à non seulement essayer de rassurer certains acteurs qui aujourd'hui réclament, avaient déjà réclamé ça il y a longtemps, mais on se demande si ce n'est pas tardif.
Honorable Christophe Lutundula, le troisième point du communiqué de la CENI dit « La publication des résultats est désormais subordonnée le cas échéant par l'examen des contestations dont le bureau est saisi et a délibéré. » Et à cet effet, il y a Jean-Paul Wakunga, cet internaute, qui dit « Avec ces nombreux retards accumulés par la CENI et ses multiples reports et arrêts des travaux, la CENI va-t-elle toujours respecter le reste du calendrier électoral qu'elle-même avait proposé ? Sera-t-on dans le temps honorable ?
Juste un petit rien par rapport à ce que mon ancien collègue Martin Mukonkole a dit. Je ne suis pas les défenseurs de la CENI. Loué s'en faut. Je suis tout simplement un homme froid devant la réalité. Je ne vends jamais du vent à l'opinion, particulièrement aux Congolais. Je suis réaliste, pas dans le mauvais sens de terme, mais qui implique le défaitisme ou la résignation. La CENI a ses avocats, a ses juristes, a son personnel, et je mets le vœu que dans les jours à venir, elle passe ici. D'ailleurs, le président Joly était là.
La CENI le fait souvent.
Oui. Voilà. Deux, je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais qu'il n'y a pas eu de faille. Toute personne honnête doit reconnaître que quelque part, il y a des choses à refaire, qu'il y a, comme l'a dit le professeur, un recadrage, un réajustement qu'il faut faire. Je ne suis pas non plus homme à venir raconter des histoires à l'opinion alors que les évidences sont là. Donc là aussi, je crois qu'il fallait offrir cette parenthèse-là. Peut-être un petit mot. Il a parlé de la présidentielle et tout. Vous savez, Martin, moi, j'ai avec le passé le rapport d'un chauffeur avec le rétroviseur. Il le regarde, mais s'il le regarde trop, il fait un accident. Et je crois que l'approche du professeur qui a présenté la troisième alternative que la CENI a apportée va un peu dans le sens de ce que je veux dire. Par rapport à la date, oui, voilà. Il y a des conséquences qu'il faut tirer, à mon sens, de la décision qui a été prise. La première, et j'espère que ce que je dis rencontre la compréhension de la CENI, c'est par rapport au délai de recours. La CENI proclame des résultats provisoires partiels. Est-ce que, en ce moment-là, le délai de recours qui est prévu par la loi compte à partir de la publication de résultats provisoires partiels? Je mets le vœu que la CENI réponde à la question, mais quant à moi, parce qu'elle dit quelque part que, en tout état des causes, nonobstant la publication partielle, le bureau est prêt à recevoir et examiner tout recours ou contestation avant la publication provisoire formelle des résultats. Je voudrais entendre par formelle la liste à partir de laquelle on peut considérer que les résultats provisoires sont, entre guillemets, définitifs dans le provisoire. Je m'excuse, c'est de gymnastique intellectuelle. Je crois que, à mon sens, à partir de cette phrase-là, le délai de recours va commencer à courir le jour où on sortira la liste provisoire que moi, j'ose dire définitive, provisoirement définitive. Alors, quant au respect de l'échéancier, certainement qu'il y aura un effet de domino. Si on veut être sérieux, si on veut renforcer la crédibilité du processus et donner véritablement confiance aussi bien aux Congolais qu'aux candidats par rapport à ce qui va se faire prochainement, je pense qu'il faut accepter que le 13 janvier soit dépassé et qu'on aille un peu plus vers la fin du mois de janvier. Ceci est important, voyez-vous, parce que aujourd'hui, le professeur a parlé ce que moi j'appelle le péché originel de la CENI, la manière dont elle a été mise en place. Oui, les responsabilités sont là, et on en parle très peu. On a parlé du 6 décembre, et tout le monde a parlé du 6 décembre comme si c'était la fin du monde. Comme si le 6 décembre, on ne connaissait pas le nom du chef de l'État, le Congo s'arrêtait. Et c'est ça aussi la conséquence de cette pression exercée sur le bureau de la CENI, créée juste pratiquement à 8 mois des élections. Il y a une responsabilité. Et je n'ai pas compris pourquoi personne, pourquoi tout le monde a perdu la lucidité par passion de ce qui allait, pour voir ce qui allait se passer par la suite. Ngoï Mulondo est arrivé avec son équipe, les catholiques dont on connaît la capacité d'encadrement, dont on connaît la valeur, j'ose le dire, c'est pas parce que je suis catholique, de religieux et de religieuses, on dit, nous retirons notre personnel. Il fallait former un autre personnel. Il fallait chercher l'argent. Et tout ça, une pression politique que nous avons exercée, pas moi, parce que j'étais contre ça. Tel qu'on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, il faut aussi accepter ces péchés originels dont se trouve marqué la CENI et ses dirigeants.
Suivant à présent quelques témoignages de certains candidats qui relèvent certaines irrégularités observées dans leur circonscription électorale, leurs propos sont recueillis par Samuel Kachak.
Yasser Limilambo, qui vient de la circonscription électorale de Kailo, dans la province du Maniema. Pendant les élections, la compilation a donné comme résultat 6218 voix pour moi, et celui qui me suivait, il avait 6010. Donc une différence de 208 voix. Curieusement, 15 jours après, ils ont affiché le résultat de 19 à minuit pour dire que l'autre est devenu premier avec 6222 voix et moi avec 6975 voix. Et le mécanisme en place était fait de façon à ce qu'on ne présente que le PV au témoin, mais on ne lui fait pas signer le PV.
Madame Gertrude Ekombe Ekofo, candidate dans la circonscription de Bikoro dans la province de l'Équateur. Dans ma circonscription, j'ai constaté plusieurs irrégularités. La première grande irrégularité s'était découverte grâce à la vigilance de la société civile de Bikoro qui a découvert 76 kits contenant chacun 150 bulletins, ce qui faisait un total de 9600 bulletins qui n'avaient aucune destination. Le jour même du vote, tous les témoins n'avaient pas accès au bureau de vote. Il y a des témoins qui sont restés dehors. Une autre irrégularité, c'est le refus de remettre le copie des PV de résultats aux témoins des candidats. La plus grande des irrégularités, ça a été la délocalisation du centre de bureau de compilation. Ça ne pouvait pas quitter Bikoro pour aller travailler en Bandaka.
Arthur Mushunda Bingela, de la circonscription électorale de Bagata, dans la province du Bandundu. Les irrégularités constatées sont les suivantes. Les centres locaux de compilation des résultats du territoire de Bagata n'a pas repris textuellement les résultats obtenus par nos trois candidats du parti tels que nous amenés par les témoins dans les différents bureaux de vote. La deuxième irrégularité est celle d'avoir constaté un écart sensible des résultats entre ce que les candidats du mouvement social pour le renouveau ont obtenu et la somme des totales relevées par les seuls du CR.
Sophie Kakoudi, ma circonscription électorale, c'est Kabalo, dans la province du Katanga. Premier point, il y a eu le partage des bulletins de vote hier, je réponds. Deuxième point, il y a eu le bourrage des urnes. Troisième point, il y a eu non-respect de la loi électorale et non-respect du protocole de la CNI.
Honorable Martin Mokonkole, vous avez suivi tous ces témoignages. Que va-t-il se passer pour les candidats ou dans les circonscriptions desquelles il y avait ces irrégularités, mais qui ont déjà été publiés comme gagnants? Que va-t-il se passer? La CENI dit que la publication des résultats est désormais subordonnée par l'examen des contestations dont le bureau est saisi et a délibéré. Cela ne va-t-il pas poser problème?
Non, ça ne posera pas de problème si vous continuez à lire les contenus du communiqué de la CENI. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté jusqu'à ce jour les contestations ou les réclamations. Si on constate qu'il y a des problèmes et il y a des preuves, on va saisir la CENI. Donc jusque-là, moi je suis de l'avis que ces communiqués n'empêchent, même pour les circonscriptions pour lesquelles il y a eu déjà la publication partielle. Si réellement un des candidats se sent frustré, il a des preuves, et c'est de son droit de saisir la CENI. C'est dit, avant qu'on arrive à publier la publication provisoire formelle, je crois qu'il y a cette ouverture et les gens doivent continuer. Parce que vous n'avez qu'à voir, vous n'avez qu'à lire. Jusque-là, vous avez pu faire intervenir que quatre intervenants. Il y a la province de Maniema, il y a eu des contestations. Il y a la province de l'Équateur, des contestations. La province de Bandundu, des contestations. Et
Katanga.
Katanga aussi avec Sophie, avec l'honorable Sophie, des contestations. Donc vous comprenez que c'est partout, c'est dans toutes les provinces et dans toutes les circonscriptions, il y a cette contestation, qu'on soit tous conséquents d'accepter que la CENI a vraiment du travail pour le moment à faire. Et là, je crois, il y a un aspect pour lequel je dois être d'accord, aussi avec l'honorable Tundula, les délais ne pourra plus être respectés si on veut être sérieux. Si on veut être sérieux, il faut qu'on comprenne qu'il y a une remise en question de tout ce qui avait été fait et on doit aller au-delà du délai. Sinon, on va toujours favoriser cette tricherie et ça sera très grave. Parce que si on doit, à ce niveau ici, lâcher des criminels au niveau du Parlement, et c'est fini, nous sommes allés pour la gloire.
Alors, honorable, est-ce que toute cette gymnastique autour de la tricherie, fraude et compagnie, cela ne va-t-il pas finalement décourager la population pour les prochaines échéances électorales?
Non, je suis en train de penser que c'est le moment de comprendre que notre population ne peut pas se décourager. C'est aussi une prise de conscience. Figurez-vous, s'il y a tricherie, qui a découvert la tricherie? C'est notre peuple. Une façon de vous dire que la population est maintenant engagée à s'approprier le processus électoral. C'est pourquoi vous aviez senti, quand on vous dit qu'on a découvert des urnes avec des bulletins, ce ne sont pas des candidats, c'est la population, ce sont des électeurs. Donc notre population ne peut pas se décourager. Je crois que c'est avec cette gymnastique que la CENI pourra mettre en place qu'elle comprendra que même la CENI elle-même, elle est maintenant contrôlée aussi par notre peuple, qui est le propriétaire, qui s'est approprié le processus électoral. On doit comprendre que c'est le moment, c'est aujourd'hui ou à jamais. Il y a quelqu'un qui disait qu'on n'a pas besoin qu'on puisse organiser des élections, il faut peut-être qu'on passe par des nominations. Non, notre peuple ne peut pas accepter à ce jour ici qu'il y ait des messieurs qui se contentent de commencer à nommer des députés. Fini cette affaire, c'est le peuple lui-même qui engage des gens, c'est le peuple qui donne du travail aux gens, président de la République soit-il, c'est le peuple qui l'élit, qui les confie la tâche de gérer la République pour 5 ans. Mais que dire aussi des députés, la même chose.
Edith Toko de Matadioba Congo, je ne vois pas comment la CENI peut sauver le processus, car elle a refusé durant les opérations préélectorales de mettre les acteurs en présence en confiance. Le silence de la CENI m'inquiète, car jusqu'aujourd'hui, aucune poursuite ni invalidation d'un candidat. Au regard des suspicions, des tricheries, bourrages d'urnes, nombre des votants supérieur au nombre d'inscrits, à quoi servirait une assistance technique internationale en aval du processus, quand en amont, on a refusé l'audit du fichier électoral par des techniciens nationaux honorables?
Non, je crois qu'à ce niveau ici, il y a un aspect que nous devons insérer dedans. Si aujourd'hui la CENI accepte qu'il y ait une assistance technique, et nous devons aussi demander qu'à la CENI qu'elle accepte de respecter la loi électorale. Parce qu'au niveau de la loi électorale, quand on arrivera à constater qu'il y a sur une liste un candidat qui a fraudé, qu'on applique la loi, c'est-à-dire qu'on arrive à déclasser cette liste-là, qu'il n'y ait pas de mesures de fantaisie ou qu'il n'y ait pas de mesures de favoritisme. Je suis tout à fait d'accord avec cet intervenant qui nous dit que nous devons commencer par respecter les textes qui nous régissent. Et quand on doit les respecter, on doit aller jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait de justes mesures parce que c'est elle. On dit on va faire ceci. Non, qu'on accepte réellement que les conclusions qui vont sortir de cette équipe technique qui va venir et que ces conclusions soient d'application conformément aux lois de la République en cette matière électorale.
Professeur Félicien Kabamba, quelle est votre analyse? L'honorable Moukonko l'a dit, qu'il faudrait que la CENI accepte également les conclusions qui sortiraient de cette équipe de supervision et d'appui technique international.
Oui, mais à l'état actuel des choses, je ne vois pas comment la CENI peut s'en sortir si elle n'accepte pas cela. En fait, quand on voit très bien comment la CENI a géré le processus électoral, on peut se rendre compte que c'est vrai qu'elle a rencontré des difficultés de tous ordres, des difficultés d'ordre temporel, c'est-à-dire n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer le processus. Il y a également le cadre dans lequel le processus se déroule, qui est le cadre étatique. Et vous savez que l'État congolais est caractérisé par l'érosion de l'ensemble des services publics de l'État. Et donc, du coup, organiser des élections dans un tel contexte est un exercice très difficile. Mais il y a aussi, quand on essaie de voir même les types d'opérations qui devaient être faites facilement, on peut se rendre compte qu'il y a aussi un problème de capacité au niveau même de la CENI. Eh bien, on ne peut pas justifier comment on en est arrivé là aujourd'hui. Ça c'est véritablement un problème qui peut être posé aujourd'hui. En fait, est-ce que la CENI a réellement les capacités de faire une élection telle qu'attendue par le peuple congolais, en dépit du fait qu'il y a toutes ces contraintes qu'on a énumérées? Et donc, tout ça, je crois que, plutôt que de jeter l'éponge, plutôt que de dire, voilà, tout s'est bien fait, on accepte les erreurs qui ont été commises, et on se dit, regardons de l'avant, trouvons une solution. Et je crois que la solution qui a été trouvée, à mon avis, elle est bonne.
Professeur, il y a Josaphat de Goma au Nord Kivu. Je pense que la CENI devra continuer la compilation car au moment où il fallait l'appui technique international, on n'y a pas fait allusion pour la partie présidentielle qui était plus sensible. C'est une façon pour la CENI de vouloir montrer qu'elle devient maintenant plus crédible, professeur.
Non, mais je crois que la CENI elle-même a reconnu les difficultés. Elle a reconnu l'existence ça et là de la corruption avec certains agents qui se sont compromis dans des actes qui sont très condamnables, et donc du coup elle s'est dit, les événements se précipitent, apparemment la CENI n'arrive plus à contrôler tout ça, il faut à un moment donné s'arrêter, regarder comment on peut continuer, parce que valider tout ça serait à mon avis extrêmement dangereux, ce serait pratiquement l'usurpation de siège que la CENI encouragerait.
L'honorable Mukonkole a insisté également sur le fait que la CENI devrait sanctionner, respecter elle-même la loi électorale et sanctionner toute violation. Professeur, quelle est votre réaction?
Mais moi, je crois également, comme l'honorable Martin, que le respect de la loi devrait être, à mon avis, au cœur de tout le processus. Le processus devrait s'appuyer sur la loi. Tout dérapage par rapport à la loi doit être sévèrement sanctionné.
Honorable Lutundula, malheureusement, jusque-là, on a l'impression que les dérapages par rapport à la loi électorale n'ont pas été sanctionnés, apparemment.
Écoutez, je ne pense pas qu'on peut engager un débat sur la nécessité de respecter la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. Pessime à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Même si elle est mauvaise, c'est la loi. Il faut l'appliquer. Nous ne pouvons pas...
Et si on ne l'applique pas?
Non, on doit l'appliquer. Les institutions sont faites pour ça. Peut-être je dois dire qu'il y a des choses, des faits, des actes qui relèvent du juge pénal, comme des actes qui relèvent, si je puis dire ainsi, du juge administratif interne, c'est-à-dire disciplinaire. Donc, il faut faire la part des choses aussi. Il y a le fait de la corruption. Ne demandez pas à la CENI, en dehors de chasser l'agent, de l'exclure de son personnel, ne lui demandez pas de faire prononcer de condamnation pénale. Donc, je crois que là, nous devons tous nous mobiliser pour exiger des sanctions. L'impunité, c'est un cancer dans une société. Il faut l'extirper le plus rapidement possible. Mais si vous permettez...
Très rapidement, on a pris beaucoup de temps.
Oui, à ce qui concerne le recours, ce qui s'est fait au niveau de la CENI, à mon sens, c'est un nettoyage interne. Qu'est-ce que je veux dire par là? La CENI essaye le plus possible d'enlever la saleté. Mais le recours juridictionnel devant la Cour suprême de justice, il reste ouvert à tous. Il faut préciser ça. Pourvu que ça ne soit pas fantaisiste. Les conclusions de l'équipe d'appui international. Non, il faut préciser aussi les choses. Il n'y a pas une équipe d'appui international qui travaillerait comme un audit. C'est une assistance apportée à la CENI qui reste toujours maître de l'ouvrage. Et une dernière précision aussi, les capacités de gestion du processus. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, on ne va pas discuter longtemps, mais c'est encore une responsabilité que nous devons tous endosser. On n'a pas donné à Mulunda et à ses amis le temps de préparer un personnel de remplacement à ceux qui sont partis.
Voilà, un mot pour conclure, honorable, l'émission va toucher à sa fin, mais il y a Grégoire de Kinshasa qui dit comment l'honorable Lutundula parle des failles dans ses élections, le chef de l'État parle d'erreurs et les observateurs internationaux parlent des graves irrégularités. Comment il explique cela? Brève réaction en guise de conclusion.
Ça, c'est peut-être un problème de termes et de nuances. La vérité, est-ce qu'il y a eu des pannes? Peut-être mettez-nous d'accord sur ces termes. Merci. Ça n'a pas été parfait.
Merci. Honorable Mukonkole, une conclusion déjà?
Non, moi j'ai une conclusion. Quand nous avons été élèves tous, on vous attrape en train de tricher. Sur 10 questions, vous avez triché sur une question, on vous donne 0. Nous devons être conséquents à ce niveau. Quand nous reconnaissons qu'on a triché dans un bureau de faute, c'est-à-dire le candidat qui a triché, doit en principe être élagué de la course. Ça doit être ça, et si nous arrivons à cette logique, et je crois que ça serait le début de la discipline et ça serait le début vraiment d'un état de droit dans notre pays. Nous allons donner à la CENI la possibilité de représenter la volonté de notre peuple à travers les urnes.
Cette décision de la CENI redonne-t-elle confiance face aux opérateurs politiques que vous êtes?
Non, je crois qu'il faut y aller plus loin. Nous sommes en train de tester la bonne foi de la CENI. Est-ce qu'après les conclusions de ces différentes commissions techniques, on va réellement les appliquer? Nous voulons voir qu'on arrive à sanctionner. Ce n'est pas à la CENI de sanctionner, mais que la CENI arrive à traduire en justice des personnes qui sont compromises dans cette opération. Parce qu'on a vu des PV, là on a saisi des candidats qui ont amené de l'argent, qui ont fait déplacer des urnes et qui se sont promenés avec des bulletins. Nous voulons voir comment la justice qui a été déjà saisie va réellement faire le travail.
Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
Oui, il faut absolument combattre l'émergence d'une culture de tricherie électorale. Ce sera, à mon sens, si cette culture s'instaure, je sais qu'elle sera destructrice pour la société congolaise.
Merci professeur. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Félix-Équipe Lamondo, à la technique Guy Manzangou et Bob Landou. Présentation et coordination, Alain Roumouchige. Au revoir.